le procès s'interrompt en 1276. Il ne reprendra vraiment qu'en 1294 avec l'avènement du pape Boniface VIII. Et le 11 août 1297, c'est Boniface VIII, pourtant profondément hostile aux Capétiens, qui canonise Louis IX, 27 ans après sa mort, par la bulle Glauria Laus. Elle est intéressante pour l'historien, cette bulle de canonisation, pour ce qu'elle produit dans l'imaginaire, mais aussi pour ce qu'elle transmet d'un document qu'on n'a plus. C'est le procès de canonisation. Parce que le procès de canonisation, étonnamment, il a disparu. Et donc on doit le reconstituer à partir des citations et surtout à partir de ce qu'on pourrait appeler sa sentence. La bulle de canonisation de 1297, elle est considérée comme la lettre de privilège de la monarchie française. Elle fait de la royauté de France, la fille aînée de l'Église. C'est en tant qu'il gouvernait, c'est en tant qu'il régnait que Louis devient saint. Et ça, le pape Boniface VIII, il tient absolument. Il veut canoniser la fonction royale et ainsi la contrôler. En canonisant Louis IX comme un saint à l'ancienne et non comme le missionnaire mort en martyr qu'il prétendait être, le pape adresse en fait un message au roi de France. Soyez humble comme Saint-Louis, faites régner la justice comme Saint-Louis, soyez soumis comme Saint-Louis à l'Église catholique romaine. Saint-Louis, c'est donc à la fois le produit abouti de la longue patience capétienne pour faire du roi de France l'incarnation du roi chrétien idéal, comme le disait l'historien Jacques Le Goff, mais aussi un modèle très encombrant pour ses successeurs.
Louis IX, Louis X, dit le hutin, Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, et plus personne, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne sont pas fichus de compter jusqu'à 20?
Le nom de Saint-Louis, il ne va pas simplement s'inscrire dans la généalogie des rois de France, faisant de Louis le nom royal par excellence, faisant de la Saint-Louis, de la date du 25 août, la fête royale, par excellence. Le nom de Saint-Louis, il va parcourir le monde, il va essaimer la planète, il va dire partout sur la Terre la présence d'une France missionnaire et colonisatrice, depuis l'embouchure du Sénégal jusqu'aux rives du Missouri. Car Saint-Louis est aujourd'hui un toponyme mondialisé. On en trouve des avatars espagnols au Mexique, des versions portugaises au Brésil et même des déclinaisons en Wendat, la langue des Indiens Hurons du Québec. Sans compter les nombreuses adaptations haïtiennes, guadeloupéennes, sénégalaises, mauriciennes ou tamoules. C'est qu'à partir du XVIe siècle, les rois de France couvrent l'Europe de paroisses Saint-Louis des Français. À Lisbonne, à Istanbul, à Rome, la plus célèbre, créée par Henri IV, à Madrid, à Séville, et même jusqu'à Moscou. Sur le littoral français, ce sont les navigateurs qui prient Saint-Louis, de la Camargue jusqu'à la Vendée. C'est que, depuis ces ports, la mémoire du saint national prend le large. Elle alimente l'expansion continue de l'universalisme colonial de la France. L'élan missionnaire de la France coloniale va trouver dans le souvenir de Saint-Louis et de la mort de Louis IX, le 25 août 1270, à Carthage, un souvenir disponible et un souvenir directement efficace. Et là, on est dans une autre ambiance. On est dans l'ambiance du 19e siècle et des conquêtes coloniales. C'est dans l'effet de souffle de la prise d'Alger en 1830 que les Français commencent à coloniser aussi la mémoire des lieux du martyre de Saint-Louis, comme l'a montré l'historien Yann Potin.
Les Français prennent pied au Maghreb véritablement autour de 1830 et le bey de Tunis accorde un morceau de terrain, le sommet de la colline dite de Birsa, à la France, lui donne à perpétuité ce fragment minuscule de terre tunisienne pour y élever un monument à la mémoire de Saint-Louis et surtout à la mémoire de sa mort et particulièrement du lieu de sa mort.
Sur le lieu présumé de sa mort, les Français ont d'abord érigé une petite chapelle dont il ne reste rien aujourd'hui. En 1890, surtout, ils l'ont flanqué d'une imposante cathédrale qui surplombe toujours la colline de Birsa et domine toute la baie où débarqua le roi de France 600 ans plus tôt. Un lieu de mémoire, donc, mais aussi un symbole des nouvelles relations entre islam et chrétienté que promeut alors le protectorat français en Tunisie. Et pour consacrer cette cathédrale, il fallait une relique. Nous sommes à la fin du 19e siècle, mais d'une certaine manière, rien n'a changé dans l'anthropologie chrétienne. On va alors rechercher les reliques laissées par Charles d'Anjou à Palerme pour les faire revenir en Tunisie, et c'est ce somptueux reliquaire qui vient couronner le projet du cardinal Lavigerie, primat d'Afrique et commanditaire de la cathédrale Saint-Louis de Carthage.
Lavigerie est au même moment l'instrument principal de ce qu'on a appelé le ralliement, sous-entendu, des catholiques à la République. Il faut arrêter de lutter contre la République et penser que la République est antichrétienne. Il faut se rallier. Donc, en effet, on peut considérer que sur les rivages de la Tunisie, ce qui se joue dans la cathédrale Saint-Louis, dans la mémoire de Saint-Louis, c'est une autre des petites partitions de ce vaste ralliement, qui n'a jamais été jusqu'au bout, bien entendu, entre Église universelle et République française. Alors, c'est évidemment difficile au XIXe siècle de savoir exactement comment était perçue cette présence française par la cathédrale. En tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que une légende voit peu à peu le jour, qui nous dit que Saint-Louis ne serait pas mort, en fait, à cet endroit, voire même ne serait pas mort du tout, mais surtout se serait converti à l'islam en 1270 et serait donc devenu un saint dans la culture islamique, un marabout. Et il se trouve qu'effectivement, à 2 kilomètres de là, il y a un sanctuaire très important, la colline de Sidi Bou Saïd, qui domine la mer. Et cette légende, donc, ne cesse de fructifier. Sidi Bou Saïd est un personnage réel, un soufi mort en 1231. Et donc la légende de Saint-Louis devenu Sidi Bou Saïd devient une des façons de matérialiser le dialogue et peut-être même une forme d'échange inégal, bien entendu, entre les Français et les Tunisiens placés sous protectorat français. Ce dialogue entre les deux collines qui se regardent l'une l'autre à quelques encablures de Tunis, c'est aussi une fantaisie qui dit beaucoup de choses de la colonisation du XIXe siècle. Évidemment, rien, ou presque rien, de la mort de Saint-Louis au XIIIe siècle et a fortiori de celle de Sidi Bou Saïd quelques décennies auparavant.
Sur les rivages de la Tunisie, le 25 août 1270, un roi chrétien est mort en Afrique et son souvenir a résonné très loin dans l'espace et dans le temps. Et pendant ce temps-là, dans le monde, chacun ou presque vit à l'heure de l'expansion mongole. En 1270, Kubilai, le petit-fils de Gengis Khan, choisit comme capitale Kambalik, la ville du Khan, qui devient Kombaluk dans le récit d'un voyageur qui la visite alors, Marco Polo. C'est la future Pékin. Au même moment, en Russie, les princes de Vladimir tentent de faire front face aux chevaliers teutoniques et aux rois de Suède. Eux aussi peuvent compter sur un saint national, Alexandre Nevski, mort en 1263. Car il y a d'autres royautés sacrées dans le monde. La plus ancienne et la plus durable est celle des rois d'Éthiopie. Le 10 août 1270, Yekuno Amlak devient Négus d'Éthiopie et fonde la dynastie dite salomonienne qui règnera jusqu'au XXe siècle. Et puis, le 20 août 1270, 5 jours avant la mort de Louis IX, le roi d'Angleterre Édouard Ier s'est croisé à son tour. La dernière croisade, en fait, c'est lui qui l'achèvera, dans le silence d'une historiographie française un peu trop aveuglée par les grandes figures nationales. Finalement, dans cette histoire, les choses ne sont pas à leur place. Elles sont littéralement disloquées. Elles ont quitté leur lieu. Là où il est mort, il n'y a rien. Le corps a été éparpillé, comme s'est disséminé le nom, comme le souvenir de ce roi national a débordé le cadre de la France. Par la date, par le nom, par le lieu, s'impose au fond une histoire qu'on voudrait voir ancrée dans un territoire et dans une généalogie, mais qui excède de beaucoup cette belle image, qui la déborde, qui la dérange, qui d'une certaine manière indiscipline l'idée qu'on peut se faire d'un roi qui sagement nomme le temps et délimite un territoire.